Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagémo à voix haute, épisode du 2 mars 2025. Aujourd'hui, en seconde partie d'émission, c'est Aude Rohrbach, 13 ans, qui investit la tribune littéraire Voici ce que j'en pense. Elle nous parle de la BD Si on était d'Axel Renoir. Dans les coulisses du livre, je reçois l'auteur et illustratrice Élodie Duhameau et on terminera avec quelques événements littéraires qui se vivent tout près de chez vous ou un peu plus loin avec les actualités rares. Mais d'abord, en première partie, dans le segment Dis-moi ce que tu lis, je reçois Geneviève Chauvette et trois élèves de sa classe de sixième année de l'école Wilfrid Bastien, Jaël Saint-Jean, Mariam Sekri et Lynn Djellab. Elles nous parlent d'un projet d'écriture multigenre autour des livres de Jacques Goldstein. Manquez pas ça, parce qu'il y a plein de surprises qui peuvent arriver dans cette émission-là. On retrouve une collaboratrice en or dans la chronique de Mathilde Routy aussi. Et encore une fois, donc, vraiment tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse.
Je m'appelle Amina et j'ai presque 12 ans. Si je rencontrais Jacques Goldstein, je lui dirais que j'apprécie beaucoup ses livres qui parlent presque tous de différence et je lui demanderais également comment trouve-t-il toute cette inspiration.
Dis-moi ce que tu lis.
Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui œuvrent tout autour du monde de la littérature jeunesse et aussi des enfants qui la lisent. Aujourd'hui, j'accueille avec plaisir Geneviève Chauvette et trois des élèves de sa classe de sixième année, Jaël Saint-Jean, Mariam Sekri et Lynn Djellab. Bonjour à vous quatre.
Allô.
Bonjour.
Allô.
Allô. L'école Wilfrid de Bastien, c'est situé à Saint-Léonard, à Montréal. Ça fait partie du centre de service scolaire. Centre de service scolaire, oui, du La Pointe-de-l'Île, n'est-ce pas?
Exactement.
Oui, hein? Geneviève, vous êtes une invitée chouchou de l'émission. Je pense qu'on vous a reçu chaque saison depuis le début. Et chaque fois, vous nous parlez d'un projet de lecture ou d'écriture que vous vivez avec vos élèves. Mm-hmm. Cette fois, vous nous parlez du projet d'écriture multigenre. Qu'est-ce que c'est?
Le projet multigenre, en fait, c'est l'idée que l'écriture est partout. Donc, de sortir les élèves du carcan de « j'écris pour être évalué ». Puis ensuite, c'est terminé. Donc, de donner du sens un peu à l'écriture, puis qu'on se rend compte qu'il y a de l'écriture partout dans la vie.
OK, d'accord. Puis, moi, j'aimerais ça que vous nous donniez... On se dit vous, là, mon
oui.
dire-tu,
hein? On se connaît.
On se dit tu. On se dit tu. Parfait. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles des exemples de ce que vous avez fait, parce que vous avez travaillé particulièrement à partir des livres de Jacques Goldstein.
Oui, bien, déjà, Jacques Goldstein, je l'utilisais dans plein de situations, dans d'autres réseaux, par exemple, en CCQ et tout.
En CCQ, pour les néophytes...
Culture et citoyenneté québécoise.
C'est donc, le programme.
Ouais. Mais à travers les œuvres de Jean Gauthier, il y a toujours beaucoup de preuves d'écriture, de lecture. On voit beaucoup de livres, les personnages ont souvent des livres autour d'eux. Et j'ai décidé d'utiliser ces albums justement pour montrer aux élèves que l'écriture est partout. Donc, par exemple, j'ai une équipe qui a travaillé sur le Dragon Vert, dans lequel ils ont rédigé un menu de restaurant.
OK. Parce qu'on voit un menu dans le Dragon Vert.
Exactement.
Et donc, tu as invité les élèves ou certaines équipes qui avaient choisi ce livre-là d'illustrer pour vrai.
Oui, c'était leur choix, oui.
OK.
Ensuite, il y a eu un autre exemple super intéressant que j'ai trouvé. C'était dans l'album Le Tricot.
Ouais.
L'histoire de la grand-mère qui raconte un peu l'histoire de la famille à sa petite-fille.
Ouais.
Puis, une des équipes avait écrit, avait vu en fait le Michel Chartrand qui est illustré là-dedans avec la grève de l'amiante dans les années 50.
Ouais.
Et ça les a touchés un peu, ça les a marqués. Ils ont été curieuses, puis sont allés fouiller. Et ils m'ont rédigé un manifeste, en fait, sur la grève de l'amiante dans les années 50 avec Michel Chartrand. Donc, ils sont vraiment allés beaucoup plus loin que ça à quoi je m'attendais, mais c'était franchement intéressant. Dans Jules et Jim, on a eu la rédaction du contrat, en fait, de l'armistice.
Donc,
à la sauce sixième année, on se comprend bien, mais ils ont fait les recherches, ils ont poussé un peu qui signait les alliés. et tout. Donc, ils ont vraiment poussé l'écriture par rapport à ça.
Ça veut dire qu'on est à la fois en lecture parce qu'ils ont lu les albums, on est en écriture parce qu'ils font une production écrite, mm-hmm. mais aussi on est dans d'autres disciplines scolaires.
Complètement.
L'histoire, la géographie, oui. On ouvre en univers social aussi.
Exactement. Bien, c'est que dans le fond, les élèves vont où est-ce qu'ils veulent aller
oui.
en lien avec ce que la lecture leur a inspiré. Puis nous, ben, en tant qu'enseignante, ben, on suit.
Avec différents genres d'écriture, parce qu'un
oui,
menu,
exactement.
L'armistice, c'est pas tout à fait la même chose.
Exactement.
Alors, on a la chance de vous avoir en studio, Jaël, Mariam et Lynn. Moi, j'aimerais que vous nous disiez quel livre de Jacques Goldstein vous a inspiré, puis qu'est-ce que vous avez travaillé comme projet d'écriture à partir de ce livre-là. Jaël, d'abord.
Moi, j'ai travaillé sur le tricot. Parce que le livre parle d'une fille qui parle à sa grand-mère.
Ouais.
Donc là, elle a été curieuse. Et après, dans les images, on avait trouvé genre un petit magasin, un magasin dans le décor.
Ouais.
Et là, on a dit, on va faire une petite revue pour savoir les vêtements qu'il y a, les nouveautés.
C'est comme une affiche de publicité, si tu veux.
Oui, mais genre... eux qu'on trouve dans nos
comme un catalogue.
Lettres.
Oui, c'est vrai, d'accord.
On a fait une mini lettre pour savoir les rabais,
ouais.
quand ça ouvre, les choses comme ça.
Ouais.
On a fait genre une mini carte cadeau
ouais.
de 25 $
pour les gens qui voudraient apporter
oui.
des vêtements que vous avez présentés oui. dans ce feuillet-là, c'est ça?
Oui.
Génial! Et Mariam et Lynn, vous avez travaillé dans la même équipe. Alors, qu'est-ce que vous aviez choisi comme livre? On commence avec, comme Mariam.
On a travaillé sur le prisonnier sans frontières.
Ouais.
C'est l'histoire d'une famille, genre plusieurs personnes qui manifestent contre quelque chose qu'ils n'ont pas aimé.
OK.
Et je pense que c'est le gouvernement ou quelque chose, ils n'ont pas accepté.
Ouais.
Donc, ils ont enfermé quelqu'un.
Qui existe pour vrai, hein?
Oui.
C'est un vrai, vrai prisonnier de guerre. Comment il s'appelle?
Raif Badawi.
Oui, d'accord. Et donc, dans ce livre-là, on parle de son histoire à lui. Puis, qu'est-ce que vous avez fait comme projet d'écriture? On peut donner la parole à Lynn, alors.
Parce qu'il y avait plusieurs personnes dans le monde au complet qui lui envoyaient des lettres.
Ouais.
Donc, on a décidé de choisir une langue au hasard qu'on connaissait sûrement déjà. Donc, on a pris l'arabe
ouais.
et on a écrit des lettres qu'on a traduites en français et en arabe en même temps.
Et vous avez écrit à qui?
Raif Badawi.
À Raif Badawi. Oh, ça, c'est génial. Vraiment génial. Moi, j'ai dit tantôt que vous étiez des invités chouchous de l'émission. Nous, on aime beaucoup, beaucoup gâter nos invités. À Imagez mon à voix haute. Alors, on a pensé vous faire une surprise aujourd'hui et on va accueillir en studio avec nous l'auteur et illustrateur Jacques Goldstein lui-même. D'accord? Alors, on va ouvrir la porte, on va aller le chercher et puis on va l'accueillir en studio avec nous. Qu'est-ce que ça vous fait comme effet?
Un peu bizarre parce que... Parce que rencontrer un auteur que je lis des trucs, c'est bien.
Oui.
Surtout que ses phrases sont simples et faciles à comprendre.
Oui, oui, oui. Alors, on va le rencontrer pour vrai. D'accord? On y va. Bonjour, Jacques Goldstein.
Eh bien, bonjour, Marie. Bonjour.
Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Jacques, vous avez entendu les explications de Geneviève et de Jaël, de
oui.
Mariam et de Lynn à propos de leur projet d'écriture multigenre qui implique vos livres. Qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre ça? Qu'est-ce que vous en pensez d'un projet pareil?
Bien, je trouve ça formidable. Mais en même temps, je veux leur dire que quand j'écris ces livres-là, en fait, je vais faire une confession, c'est que, en fait, je les écris pour moi beaucoup. J'essaie de me faire plaisir. Ça fait pas si longtemps que ça. Enfin, ça fait une dizaine d'années que j'écris des histoires comme ça. Et en fait, c'est des histoires que j'aurais voulu qu'on me raconte quand moi j'étais jeune. Donc, Donc, tant mieux si ça rejoint des gens. Mais je pense que peut-être si je pensais trop au lecteur en me disant, mais qu'est-ce que Jaël, qu'est-ce que Marianne va penser, ben, peut-être que ça m'intimiderait, peut-être que ça me bloquerait un peu. Alors, je laisse aller mon imagination et puis j'essaie de parler, de faire des connexions avec la géographie, l'histoire, les arts et tout ça. Et puis bon, ben, les droits humains, ça me tient vraiment à cœur.
Ouais.
Donc, j'ai pas à me forcer pour faire ces choses-là. Et tant mieux s'il y a des lecteurs, puis il y a des gens qui apprécient mon travail.
Et que c'est utilisé dans les classes,
oui,
par des admirateurs, mais aussi par des lecteurs qui prennent conscience de tous ces sujets que vous leur proposez. Jaël, Marianne, Lynn, qu'est-ce que vous avez appris en réalisant ce projet à partir des livres de Jacques Goldstein? Qu'est-ce qui veut commencer pour ce que vous avez appris? Lynn, on te donne la parole.
Alors, on a appris que partout où tu vas, n'importe où tu vas en Algérie, tu vas en Europe, tu vas en Afrique, n'importe où tu vas, il y aura de l'écriture de n'importe quelle langue, n'importe quelle manière de l'écrire ou de le lire. Il y aura toujours de l'écriture partout où tu vas.
Oui, c'est intéressant. Et donc, vous vous êtes servi de ça vous-même. Mais donc, écrire, lire, c'est un moyen de relier les gens. Et ça, c'est hyper important. C'est pour ça qu'il faut maîtriser ça. Qu'est-ce que vous avez appris d'autre, Jaël?
Avant, je savais qu'il y avait de l'écriture dans la vie de tous les jours. Mais grâce à ce projet, j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup plus que ce que je pensais.
OK. Donc, plus de façons différentes et de raisons différentes pour écrire. Ça, c'est intéressant, Jaël. Puis toi, Marianne, qu'est-ce que tu as appris dans ce projet-là?
Qu'on peut pas, genre dans plusieurs pays, on peut pas dire ce qu'on pense à voix haute.
Mm-hmm.
Comme dans le livre qu'on a lu, Le prisonnier sans frontières, Raif Badawi, quand il a protesté, on lui a pas laissé et on l'a emprisonné à cause de ça.
Mm-hmm. Mm-hmm. Et donc, dans certains pays, le droit de s'exprimer est brimé. Et donc, c'est d'autant plus important d'être vigilant, nous, pour garder ce droit d'expression qu'on a. On a du travail à faire. Hein? Moi, j'aimerais ça savoir, parce qu'on a la chance d'avoir Jacques avec nous, qu'est-ce que vous aimeriez dire à Jacques, qui est l'auteur, l'illustrateur de ses livres? Est-ce qu'il y a des choses à propos de son travail que vous aimeriez connaître? Qu'est-ce qu'il a le goût de commencer? Puis Geneviève peut intervenir aussi là-dedans. Hein? Jaël.
J'ai juste une question. Comment vous avez su votre style d'illustration?
Au point de vue de l'illustration, c'est une très bonne question. Quand t'es jeune, tu copies. C'est la meilleure façon. Un peu comme autrefois, les gens allaient dans les musées et puis copiaient les grands maîtres. Ben moi, je copiais Franquin qui dessinait Gaston Lagaffe, Hergé qui faisait Tintin, Sampé qui faisait le petit Nicolas. Donc, je copiais ça. Et puis, à un moment donné, tu as comme l'impression que jamais tu arriveras à avoir ton propre style. Et puis, à force de dessiner, eh bien, il se passe quelque chose d'un peu mystérieux. Eh bien, tu développes un trait de crayon vraiment particulier. Et puis, ça se fait sans que tu t'en rendes compte.
Et vous devenez vous-même un modèle pour d'autres illustrateurs.
Oui, c'est assez drôle, cette chose-là.
Oui. Est-ce que, Lynn, Mariam, est-ce que vous avez une question sur le travail de Jacques?
Mariam? D'où lui viennent toutes ces idées?
Bien, Mariam, tu vois, tu disais quelque chose de très juste tout à l'heure en ce qui concerne la liberté d'expression. Ça, c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Tu sais, je dis pas que ça m'empêche de dormir la nuit, mais presque. Des fois, je me réveille en pensant à ça, en pensant à des gens qui n'ont pas les mêmes droits que moi. Moi, je suis heureux, je suis en santé, je peux faire du ski de fond, de la raquette, je peux écrire ce que je pense, je peux faire publier ça. Je vis dans une société où il y a la justice, où il y a le droit, mais je pense à des endroits dans le monde où il n'y a pas ça, où il n'y a pas cette démocratie-là, cette justice-là. Et on parlait de Raif Badawi. Ben, moi, je me suis intéressé un peu à ce qu'il a fait. Je me suis dit, oh, il a dû faire des choses vraiment terribles, cet homme-là. Peut-être que c'était un meurtrier, peut-être qu'il a battu des gens. Et puis, en fait, j'ai découvert, c'est qu'il réclamait des droits en Arabie Saoudite. Il disait, ben, moi, je veux avoir des droits pour les femmes, je veux avoir
il
des droits.
Il a dit haut et fort.
Oui, exactement. Et il s'adressait au sultan, ou pas au sultan, mais à son Altesse royale, de façon très polie, etc. Mais il y a des pays où tout, tu peux pas parler. Ça, ça m'indigne. Et c'est pour ça que je suis associé, entre autres, avec Amnesty International, parce que chaque année, ils font un marathon d'écriture. C'est ce qui m'a inspiré pour le Prisonnier sans frontières. Et quand tu vois cette liste de gens, par exemple, chaque année, il y a une vingtaine de personnes qui sont ciblées. Alors, ça peut être des gens qui travaillent à la radio.
Ouais.
Ça peut être des journalistes. Ça peut être des enseignants.
Ouais.
Ça peut être des gens de tous les milieux, des dessinateurs, etc. Et qui sont jetés en prison parce qu'ils n'ont pas fait plaisir soit au dictateur, ou au roi, au pouvoir. Alors, on a comme l'impression que c'est peut-être un scénario de film, que c'est pas dans la réalité, mais c'est vrai. Puis bon, ben, si je peux arriver à faire quelque chose, et puis peut-être la plus grande récompense, c'est de voir qu'il y a des gens comme vous, des jeunes qui s'intéressent à ça, puis ça va peut-être changer votre vie, puis peut-être que vous allez être des ambassadeurs à un moment donné, peut-être que vous allez pouvoir expliquer ça aux gens dans votre famille, vos cousins, vos frères, vos sœurs, et puis en parler à l'école. Et puis vous allez voir, vous allez vieillir, puis ça s'en ira pas. Vous mettrez jamais ça de côté.
C'est très précieux.
Vous êtes contaminé.
Oui. Lynn, est-ce que tu as une question? Ma belle.
Pourquoi vous avez choisi d'écrire? Il y a plein de travail dans le monde, mais vous avez choisi d'écrire et d'illustrer.
Ben, en fait, quand j'étais petit, je voulais devenir dessinateur, mais hélas, il y a un directeur d'école qui m'a découragé et qui m'a dit que je ne mettrais pas de beurre sur mon pain si je devenais dessinateur.
Alors, que vous ne feriez pas assez d'argent.
Oui, c'est ça. Ça veut dire, pas mettre de beurre sur mon pain, ça veut dire être assez pauvre. Et moi... moi, je voulais pas être pauvre. Alors, j'ai eu un plan B. Et donc, j'aimais bien les sciences. Je n'étais pas le meilleur à l'école, mais j'ai étudié la chimie, la physique, et je suis devenu géologue. Et donc j'ai étudié les cristaux, j'ai étudié les minéraux, les volcans, l'évolution des continents, etc. Et j'ai travaillé dans une mine d'or. Ensuite, j'ai travaillé dans le pétrole. Et puis, le hasard a fait que je suis revenu au dessin. Donc, mais ça n'a pas été des années perdues, parce que je ramasse encore des cailloux, puis je m'intéresse à la planète, au sort de la planète, au changement climatique, etc. Mais juste pour terminer, le directeur d'école qui m'avait dit que je ne mettrais pas de beurre sur mon pain, mais il a eu raison, parce que je ne mets pas de beurre sur mon pain. J'aime pas le beurre, ni la margarine, mais j'aime le Nutella, j'aime la confiture.
On met autre chose sur le pain.
Confiture de framboise, j'adore.
Geneviève, tu lis Jacques Goldstein, oui, en classe depuis longtemps. C'est une inspiration pour toi, tant en écriture qu'en lecture. Pourquoi? Comment?
Bien, déjà, ça part des Débrouillards, que
oui,
moi, je lisais à l'époque, donc Beppo et compagnie. Donc, à chaque fois que je voyais que ça venait de lui, bien là, j'étais intéressée. Puis là, est arrivé Julie Jim, Les Étoiles, qui est un coup de cœur incroyable. Puis mon coup de cœur à moi a vraiment été le tricot, étant très, très proche de ma grand-mère maintenant décédée.
Ouais.
Ça me ramène à elle, assise en train de tricoter, moi devant le foyer, à regarder la télé avec elle, à me faire regarder les jours de tempête. Donc, c'est sûr que ça vient me chercher. Puis c'est tous les repères culturels,
ouais,
qu'on retrouve dans ma chère ville de Montréal que j'aime tant.
Ah oui, qui sont effectivement beaucoup,
ouais,
mis en valeur.
Exactement.
Dans les livres de Jacques, tout à fait.
Et ouais, c'est drôle parce que, Geneviève, tu mentionnais quelque chose tout à l'heure à propos du tricot. Tu parlais de Michel Chartrand, par, ouais, exemple. Et il se promène avec un étendard rouge qu'on, mm-hmm, lui a tricoté sur son chandail. Et puis, il y a des pancartes, c'est écrit « Grève de l'amiante ».
Oui.
Donc, je pense que vous avez fait une recherche là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé en 1949? Un conflit terrible à ce moment-là. Et c'est drôle parce que les livres ont été traduits en quelques langues, dont en italien. Et eux autres, ils n'ont pas écrit « Grève de l'amiante ». Ils ont écrit sur la pancarte « Non à l'amiante, on ne veut pas d'amiante ». Alors que ce n'était pas ça du tout. Les ouvriers voulaient avoir des meilleures conditions de travail, mais c'était pas à l'époque, ils savaient, on n'était pas aussi bien renseignés.
Mm-hmm.
Donc, c'est drôle, ces histoires-là.
Oui. Ouais. C'est formidable. Et on aurait pris, on l'a dit tout à l'heure, entre nous, on aurait pris une journée complète avec Jacques. Mais bon, alors, on va prendre ce temps-là qu'on a eu ensemble. Merci d'abord pour la belle surprise, Jacques Goldstein. Au plaisir de vous lire encore, puis d'apprécier les dessins, les illustrations que vous faites. Merci à vous trois, Jaël Saint-Jean, Mariam Sécri et Lynn Jellab. Bonne fin de sixième année. Et merci, Geneviève Chauvette, pour la place que tu fais aux livres dans ta classe, pour la bienveillance dont tu fais preuve envers les jeunes et pour le plaisir de la lecture que tu mets de l'avant toujours, toujours, toujours. À une prochaine fois, c'est sûr.
C'est sûr et certain.
Merci. Au revoir. Bye.
Bye, bye.
La chronique de Mathilde.
Bonjour Mathilde.
très, très...
Bonjour.
Bonjour. Très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. On rappelle que vous avez assuré avec Marie Barguirdjian les balados Raconte-moi une histoire qu'on a diffusé ici à Imagez-moi en voix haute, que vous étiez jointe avec beaucoup d'enthousiasme à son projet. On a tous besoin d'histoires. Que vous travaillez maintenant au Salon du Livre de Montréal et que vous assurez ici cette chronique en nous proposant des sujets qui nous font réfléchir, toujours en lien avec la lecture. Aujourd'hui, vous nous parlez de l'éveil au livre et au récit.
Exact. Oui, et je me suis dit que pour rentrer dans le sujet, j'allais d'abord vous raconter une anecdote. Alors, quand j'étais animatrice de l'heure du conte pour les bébés en bibliothèque, une fois à la fin d'une séance, je m'approche d'un couple qui était venu avec leur fille, qui avait à peu près un an et demi, deux ans. Mm-hmm. Et la maman est très fière de me dire qu'elle lit tous les jours avec leur enfant. Mais je sens un certain scepticisme. Okay. Et le papa, il enchaîne rapidement en disant qu'il ne comprend pas tellement l'intérêt de tous ces livres, qu'il liste les bruits des animaux, les couleurs ou les moyens de transport. Et je comprends alors qu'ils se disent comme des bons parents parce qu'ils font la lecture à leurs enfants, mais qu'ils font un petit peu parce qu'on leur a dit que c'était important, qu'il fallait le faire, que ça allait avoir un impact plus tard sur l'apprentissage futur de la lecture. Mmh. Et dans ce cas-là, on voyait bien que le livre était perçu uniquement pour sa valeur pédagogique et on s'éloignait complètement du livre comme objet littéraire ou culturel.
Mmh. Mais c'est évident que ça a une valeur pédagogique, la lecture, hein, toutes les recherches le disent. J'ai fouillé un peu puis j'ai trouvé des documents, un notamment qui vient du ministère de l'Éducation. Ça s'appelle « Développer les habitudes de lecture des enfants ». Et puis, il y a un paragraphe là-dedans où on dit « En lisant avec votre enfant, vous lui permettez d'adopter des stratégies de compréhension de texte qu'il pourra reproduire dans ses lectures à l'école. Par exemple, dans ses lectures à la maison, votre enfant apprendra à prédire, à résumer des histoires ainsi qu'à faire des liens entre le texte et les images. Il pourra répéter ces stratégies lors de ses lectures à l'école. » Puis dans un autre document qui vient de ELLE, ça veut dire éveil à la lecture et à la lecture et à l'écriture, c'est un document qui s'appelle « Les tout-petits qui feuillettent des livres par eux-mêmes à 2 ans et demi auront de meilleurs résultats scolaires à 15 ans ». Alors, c'est prouvé, la recherche le dit. Donc, les parents, ils se sentent investis d'une mission, ils sont des bons parents, s'ils mettent s'ils lisent à leurs enfants, même tout-petits, ça a une valeur pédagogique, on le sait, ça.
Exactement. Mais moi, j'aimerais être là un petit peu en contre-pied et puis prendre un pas de recul. Et puis, en fait, à la base de l'éveil au livre et au récit, c'est vraiment un moment privilégié qu'on offre à un enfant. C'est vraiment un moment où on se retrouve seul avec un bébé, mm-hmm. un tout petit ou un enfant et un adulte autour de l'objet livre. Et puis cette lecture, elle doit être gratuite, juste pour le plaisir. Et donc sans évidemment cette visée pédagogique, donc évidemment ça aura des impacts à long terme, mais sans être dans le questionnement. Est-ce que mon enfant, il a bien compris? Combien il y a de chats dans cette image? Pas du tout comme ça. Là, on est juste dans le texte, mm-hmm. dans la lecture, à partager un moment. Et puis on va voir très rapidement qu'on suscite des émotions chez notre enfant. Et ce qui est bien, c'est de les noter. De voir d'un seul coup que l'enfant, il s'arrête sur cette illustration, il se questionne. Là, on peut réenchérir à avoir une discussion avec l'enfant. Mais vraiment, se mettre au rythme de l'enfant. Si d'un seul coup, il veut s'arrêter sur cette double page parce qu'il voit une grenouille qui est en train de boire dans l'étang, ben on s'arrête, on prend un moment, puis on regarde ça ensemble. On est vraiment là, comme adulte, que ce soit un parent ou plus tard un éducateur, on doit protéger l'attention de cet enfant pour qu'il reste dans ce moment-là. Ouais. Et puis, c'est vraiment ça qu'on doit se dire, on est en train de créer du lien. Et puis, c'est ça qui est magique, c'est de ce petit moment privilégié. Et puis, justement, dans les formations que j'ai suivies, on travaille vraiment à avoir une rencontre qu'on dit intime et affective avec la lecture. Mmh. Que le livre, il n'est pas juste cet objet scolaire où on doit apprendre à lire, qu'on va avoir des notes. C'est vraiment ce petit moment magique qui est créé autour de cet objet.
Oui, oui. Mais ça me rappelle quand mes enfants, qui sont des adultes maintenant, étaient petits, ce moment-là, ben, ils venaient souvent, quand on pouvait, là, mais surtout systématiquement tous les soirs au coucher, c'était que ça ait bien été ou pas dans la journée. Ce moment-là, c'est un moment précieux, c'est un moment cocon, et c'est un moment de plaisir avec les deux garçons qu'on avait, autant mon conjoint que moi, vraiment.
Et puis justement, je trouve que nos vies vont tellement vite. Et surtout dans ce contexte avec les écrans qui parfois nous éloignent, nous-mêmes en tant que parents qu'on est happés, ou les enfants qu'on met devant les écrans. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de magique de s'offrir du temps, de s'installer ensemble, collé, sans distraction, puis d'être concentré ensemble sur la même chose, de lire à voix haute un texte, de découvrir ensemble des images et de se laisser porter dans un univers qui nous emmène ailleurs. Et puis c'est ça, la beauté et la magie de la lecture partagée qui est comme un moment un peu suspendu.
Oui, puis je le vis, moi, encore dans la famille. On a des petits jumeaux qui ont 6 ans maintenant, qui ont commencé à lire par eux-mêmes. Mais moi, j'apporte des livres tout le temps et puis ils choisissent dans mon sac de livres. On s'assoit et c'est instantané. Ce moment-là, il se colle. C'est magique. C'est vraiment magique. Je souhaite ça à tout le monde. Ça fait du bien à l'âme.
Ben oui, absolument. Puis après, si on veut revenir quand même sur l'importance des apprentissages, évidemment, c'est la manipulation. Comment on tient un livre? On va rapidement découvrir le sens de la lecture en français, qui est de gauche à droite. Comment on tourne une page? On réalise pas comment c'est complexe, la dextérité puis la concentration. Ça prend pour un tout petit d'apprendre à tourner une page sans la déchirer. Puis évidemment, en lisant, on plonge dans le langage du récit, qui est un vocabulaire beaucoup plus riche. Souvent, au quotidien, on répète les mêmes mots. On utilise malheureusement souvent des impératifs. Allez, dépêche-toi, bois. Et là, on découvre la diversité des temps verbaux, le passé simple qu'on utilise très, très peu, voire pas à l'oral. Et puis moi aussi, ce que j'avais trouvé avec mes enfants, c'est l'augmentation de la capacité de concentration. On commence un tout petit livre de quelques pages avec un bébé, puis on s'imagine pas que à force, l'enfant, il est capable de rester assis plusieurs longues minutes à écouter et être concentré sur un récit. Et puis tout ça se fait en se pratiquant. Et puis, je me rappelle très bien quand d'une de mes formations, par rapport à l'éveil au livre, et elle disait justement que quand on est devant des enfants, qu'on fait une heure du conte, donc en bibliothèque ou en classe ou à la garderie, qu'on sait ceux qui ont déjà eu des livres à la maison parce qu'il y a déjà des étoiles dans leurs yeux. Ils comprennent que ce moment, c'est un moment magique.
On installe donc des étoiles dans les yeux. Merci Mathilde. On a déjà hâte de vous retrouver le mois prochain, au grand plaisir.
Merci beaucoup.
Restez avec nous. Après cette courte pause, il y aura la chronique Tribune littéraire. Voici ce que j'en pense avec Aude Rohrbach, 13 ans. Elle nous parle de la BD « Si on était » d'Axel Renoir. Dans les coulisses du livre, je reçois Élodie Duhamel, autrice et illustratrice. Et il y aura des actualités littéraires. À tout de suite. Bienvenue à cette seconde partie d'Images et mots à voix haute.
Tribune littéraire, voici ce que j'en pense.
La chronique Tribune littéraire, voici ce que j'en pense, est offerte à des jeunes du secondaire ou de la fin du primaire. Et aujourd'hui, on accueille avec plaisir Aude Rohrbach. Bonjour Aude.
Bonjour.
Aude, t'as 13 ans, tu étudies en première secondaire à Robert Gravel. C'est une école secondaire du CSSDM qui met l'accent sur l'art dramatique. T'es particulièrement intéressée par le jeu et par tout ce qui touche la production. Tu aimes lire, entre autres, des livres où on retrouve de l'horreur, du fantastique, autant que du réel, et l'humour dans les bandes dessinées. Et aujourd'hui, c'est toi qui occupe la tribune littéraire. Voici ce que j'en pense. De quel livre veux-tu nous parler, Aude?
Au début, je ne savais pas vraiment quel livre choisir, car il y a vraiment beaucoup de livres que j'ai adorés. Mais un soir, j'ai relu « Si on était » de Axel Lenoir, et ça m'a donné envie d'en parler ici, parce que c'est un livre que je lis et relis sans arrêt.
Ah, oui!
Cette BD, j'ai dit cette BD, mais il y a deux tomes, a été écrite et illustrée par Axel Lenoir, qui, outre « Si on était », a écrit une douzaine d'autres livres, dont « L'esprit du camp », que j'ai aussi lu et trouvé captivant.
Et c'est quoi l'histoire, le concept de « Si on était »
L'histoire, c'est deux meilleures amies, Nathalie et Marie, qui, depuis qu'elles se connaissent, ont inventé un jeu qu'elles ont appelé « Si on était ». Et le concept, c'est qu'une d'elles lance un thème, exemple « Si on était des parents » dans Harry Potter ou « Si on était des créatures fantastiques », et elles se mettent à fantasmer dessus. Mais c'est un jeu avec des règles très strictes. Nat et Marie sont des vrais pros, mais on a l'impression qu'elles seules connaissent les règles. En fait, c'est plein de petites histoires qui durent à peu près deux pages, et à chaque histoire, il y a un « si on était différent ». Bien sûr, il n'y a pas juste ça. Parfois, on voit des pages du journal intime des personnages ou encore des scènes de quand ils étaient plus jeunes. Et je dis qu'à chaque fois, c'est une histoire différente, mais il y a quand même un fil à l'histoire. On pourrait croire que l'histoire se déroule seulement dans leur imaginaire, mais en réalité, on les suit surtout au quotidien. Il y a des scènes où elles se trouvent au parc ou à l'école.
Est-ce que tu aurais un exemple pour qu'on comprenne mieux?
Pour exemple, je peux vous lire un extrait qui me fait vraiment rire. Alors, il se passe dans le passé, car on y voit la rencontre de Nat et Marie. Nathalie est assise sur une balançoire seule, et Marie arrive et demande « Tu te balancines pas? » On dit « balancer ». Tu viens de gâcher tout le plaisir que j'avais à me balanciner. Balancer, désolée. Pourquoi t'es tout le temps toute seule? Parce que les autres m'aiment pas. Et pourquoi ils ne t'aiment pas? Parce que je les aime pas. Pourquoi? Ils m'appellent tout le temps par des surnoms comme Carotte, Cheveux Carotte, Madame la Carotte, Nathalie la Carotte, Orange Carotte, Anne et Anne la Maison au Pignon Vert. Qui est l'idiot qui a cassé la chaîne avec Anne la Maison au Pignon Vert? Je sais, c'est insupportable. Voilà, c'était ça.
C'est un bon exemple. Et pourquoi toi, Aude, t'aimes ce livre?
Il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'aime ces BD. Premièrement, j'adore les personnages. Ils sont tous vraiment drôles, mais avec des humours différents. On perçoit bien leur personnalité et malgré toutes leurs différences, ils se complètent. D'ailleurs, au début du livre, il y a comme une fiche de personnalité pour les deux personnages principaux.
Ah.
Au fil du livre, on comprend aussi que Nathalie veut paraître sûre d'elle et cool, un peu ténébreuse, mais que finalement, elle a un petit côté gêné et sensible. Marie, elle passe plutôt pour la bizarre qui fait des blagues pas drôles, mais en réalité, elle est vraiment intelligente. Et il y a aussi les personnages secondaires comme Sam, Jandu ou Sasuke, les chats de Marie, qui sont full différents, mais tous vraiment cool. Une deuxième chose que j'adore du livre, ce sont les illustrations. L'autrice met beaucoup de couleurs et sait bien dessiner les émotions. Sans lire la page, on pourrait deviner tout ce qui se passe et comment se sentent les personnages. Et les émotions sont souvent exagérées et ça me fait tout le temps rire. En plus, Nat et Marie sont toujours habillées différemment avec des coupes de cheveux différentes et ça met de la vie au livre. Finalement, je pense que cette BD, c'est ma préférée parce qu'en écrivant ce texte, ça m'a juste fait réaliser à quel point je l'aime. Et pour ceux qui veulent la lire, elle a été publiée chez Froid.
Chez Froid. Donc, on rappelle le titre, « Si on était » de Axel Lenoir. Et c'est publié chez Froid. Eh bien, merci beaucoup, Aude Rohrbach, pour cette chronique. Sur le site de l'émission, on va retrouver le lien vers les deux tomes de cette BD. C'est ce que tu avais dit, hein? Il y a vraiment deux tomes. Dont tu nous as parlé avec éloquence. Et au plaisir, Aude, d'une prochaine collaboration. Merci beaucoup.
Merci.
Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Je reçois maintenant avec grand plaisir l'illustratrice et auteure Élodie Duhamon. Bonjour Élodie.
Bonjour Marie.
Bienvenue à Imagez-moi à voix haute.
Merci.
Je vais vous présenter aux auditeurs et aux auditrices en débutant. Élodie, vous êtes née en France, vous avez fait des études en arts graphiques.
en communication visuelle dans une école d'art appliquée à Paris. Vous avez fait ensuite vos débuts professionnels en France comme designer graphique et puis comme directrice artistique. C'est à Montréal que vous avez entamé votre carrière d'illustratrice dans le milieu de l'édition et celui de la publicité. Qu'est-ce qui vous a amené au Québec et qu'est-ce qui vous a fait basculer dans le monde de l'illustration?
Alors, le Québec, j'étais venue plusieurs fois en vacances. Ça me faisait de l'œil depuis un petit moment. Et ouais. Puis, les dernières vacances
ont été définitives.
Oui, c'est ça. Je suis venue m'installer quelques mois après et puis je pensais rester 6 mois.
Ah bon?
Me voilà bientôt à fêter 10 ans.
Donc... Oh, ça fait 10 ans.
Ça va faire 10 ans dans un mois. Allez.
Ah,
et,
oui.
Et donc, bah, je suis très heureuse.
Et nous donc. À partir de 2019, vous avez illustré plusieurs albums chez plusieurs éditeurs. En fait, je reviens à ma question précédente.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a fait basculer dans le monde de l'illustration? Parce que vous
qu'est-ce
étiez
glissé.
Tiens.
J'ai toujours dessiné, bon, comme beaucoup d'enfants, hein, je dessinais beaucoup, mais peut-être un peu plus que peut-être mes amis, et j'ai juste jamais arrêté. Étonnamment, j'ai jamais perçu lors de mes études le métier d'illustration comme un métier possible. C'est seulement vers mes 34 ans que je me suis autorisée à sauter le pas. Le design graphique, le montage vidéo, la publicité, j'avais essayé pas mal de choses, et
ouais.
Puis en fait j'avais envie de... Je pense que l'enfant en moi me criait dessus comme « Ok, t'as fait tes affaires, on revient au plan de base. » Le plan de base,
l'illustration.
C'était un dessin.
Et donc, c'est à partir de 2019, c'est ce que je pense, que vous avez illustré plusieurs albums.
J'ai commencé,
plusieurs
oui,
éditeurs.
Mais oui, effectivement, j'ai commencé, j'ai fait le saut en 2018, puis vers l'illustration, d'être employée à travailleuse indépendante et d'aller vers l'illustration. Mais j'ai commencé d'abord, venant du design graphique, j'ai commencé d'abord par rester dans ma petite zone de confort.
Ouais.
Et j'ai fait d'abord de l'illustration publicitaire. C'est le monde duquel je venais.
Ouais.
L'illustration jeunesse est venue petit à petit, en fait, au gré de propositions, vraiment. Puis j'ai attrapé le virus.
Et on est content. C'est rare qu'on est content d'attraper des virus, mais celui-là,
oui,
on est content de l'ayez attrapé.
C'est un beau virus.
Mais alors, on va en nommer quelques-uns des albums que vous avez illustrés. Cro-Magnon, Les Triplés de Réa Dufresne chez Dominique et compagnie. Où est passé le temps de Marie-Hélène Jarry chez Isatis. Deux albums d'Émilie Demers, Prise de bec et La chasse aux taches tenaces.
Pas facile à dire.
Oui, je le dis lentement. Et je l'ai raconté à Marie Raconte, ça, je l'ai lu chez Isatis. Un autre que j'ai lu à Marie Raconte, c'est Albertine Petit, Brin d'amour, déteste les choux de Bruxelles de Anne Renaud, qui a remporté le prix des libraires 05 ans et le prix Peuplier en 2022. Et il y a aussi La guerre des bébés de Carole Tremblay, qui a remporté le prix Espiègle et le prix Alvin Bellil en 2022, tous les deux publiés à la courte échelle. D'abord, félicitations.
Merci.
Et c'est de grosses années, hein, le début des années 2020, non? Qu'est-ce qui s'est passé professionnellement pour vous? À part la pandémie, éventuellement, évidemment, là, mais s'est passé quelque chose dans ces années-là pour vous?
De la chance.
Ouais.
j'ai eu la chance de recevoir des choix de textes et des choix de propositions, donc go. J'étais très, très curieuse de me lancer dans le livre jeunesse, et puis ce qui m'a donné le goût aussi d'aller creuser assez rapidement l'écriture aussi.
Ben oui, alors parlons-en de votre coming out comme auteur. Vous avez publié 3 albums chez Les 400 coups,
oui.
Dont vous signez le texte et les illustrations. Le croco, qui vit chez Papy, chez Gladys, qui est comme la suite.
Voilà, qui se lit indépendamment.
Oui,
mais
effectivement,
c'est
on peut lire
d'œil.
Un ou l'autre,
oui, voilà.
Mais c'est le même Papy.
C'est le même papy,
et
c'est le même environnement.
Tout près d'un
zoo.
C'est ça. Et L'Oiseau rouge,
exact.
Qui lui a reçu le prix Peuplier en 2024. Qu'est-ce qui vous a donné ce goût d'écrire et comment ce passage-là s'est opéré?
Alors, je suis membre d'Illustration Québec et il y a quelques années, je pense juste juste avant la pandémie, j'avais fait une formation avec l'association et que donnait Mireille Levert.
Ah oui, Mireille Levert.
Ben voilà.
En fait, Mireille Levert, pour l'anecdote, elle était bibliothécaire quand j'enseignais, ça fait des années. Elle était bibliothécaire en jeunesse, une personne formidable, et elle a commencé à écrire dans ces années-là.
D'accord.
C'est vraiment une chouette personne.
Ben, très pédagogue, très douce, très agréable en tant que personne et en tant que professeur. C'était une toute courte formation de, je pense, 2 matinées, mais au gré d'exercices d'écriture pour vraiment dénouer le processus de la crainte de la page blanche ou autre. Mais pouf, Maurice est né.
Maurice qui est mon... le personnage...
C'est mon crocodile rouge.
Oui, c'est ça.
Donc, mon tout premier personnage du croco qui vit chez papy.
Ouais.
Et puis, je pense que je suis rentrée de la formation de Mireille et l'après-midi, j'avais déjà écrit... j'avais écrit le croco qui vit chez papy, mais c'était la V1. On s'entend qu'il y a eu plusieurs versions avant la version finale, mais c'est né de là. J'avais toujours la curiosité pour l'écriture et puis Mireille a débloqué ça.
Elle a débloqué ça, elle a fait surgir ce qui grouillait déjà.
C'est ça, il y avait toute une équipe de... Dans ma tête, il y a plusieurs personnes, hein, c'est ça. Donc, il y avait l'équipe créative dans une... Il y avait la pièce des gens qui avaient très envie d'écrire et qui attendaient que ça, qu'on ouvre la porte.
Alors, merci Mireille Levert.
Merci Mireille.
On peut dire ça. On va parler des personnages donc, de ces 3 albums, des animaux surtout, 2 oiseaux, dont un qui est en fait un chat. N'est-ce pas? Un crocodile, Maurice, une autruche, Gladys, et ce papy qui habite juste à côté d'un zoo. Mm-hmm. On va parler aussi des situations loufoques que vous faites vivre à vos personnages. Dans ces livres, il y a beaucoup, beaucoup d'humour, il y a des clins d'œil, il y a de la joie, il y a de la légèreté. Pourquoi c'est important pour vous de proposer aux enfants ces histoires, ces personnages sympathiques et amusants?
Je pense que j'ai besoin de m'amuser de toute façon quand je le fais. Faut savoir que je ris beaucoup toute seule en dessinant, en écrivant. Enfin, je suis mon premier public, donc j'ai besoin que ce soit coloré, vivant, expressif, léger. Naturellement, c'est ce qui me vient.
Ouais.
Mais j'imagine qu'il y a aussi des questions qui font réfléchir. Enfin, il y a quand même des sujets qui me sont sensibles.
Ouais.
Et puis, pour le croco qui vit chez papy ainsi que Gladys, c'est sûr que le sujet de la cause animale, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. La notion de captivité, du rapport entre... Le rapport de domination
la
entre
place qu'on
l'humain,
fait aux animaux
voilà,
aussi,
c'est ça. Que bon, les zoos, qu'est-ce qu'on en pense? Et puis la captivité, sauf, mettons, les refuges, hein, on a besoin de ça, ça rattrape les bêtises des humains, mais j'avais besoin d'aborder la question, mais sans être moralisatrice, je laisse vraiment le goût aux enfants et aux parents qui les accompagnent
de
poser des questions
eux-mêmes.
Ensemble. Oui, c'est ça. C'est comme je donne un point de vue où je questionne et puis j'ai envie de créer éventuellement des conversations aussi à la maison.
Et ça le fait vraiment. Moi, je l'ai lu. Je les ai lus en fin de semaine, vos 3 livres, à des petits qui ont beaucoup, beaucoup apprécié et on a discuté. Ça suscite des questions intéressantes.
J'aimerais être une petite souris.
Parallèlement, dans quelques-uns des livres que vous avez illustrés pour les autres, vous avez su aussi présenter habilement des sujets moins légers, des sentiments, des émotions différentes, comme dans Les ballons d'eau, une histoire hyper sensible, de Sarah de Gonze, qui est publié à La Bagnole, ou encore Un bouquet de lettres, abécédaire du livre, de Jocelyn Boisvert, chez Québec Amérique. Ça, c'est une ode à la lecture, en fait. Ou bien dans Les drôles de choix d'Anna et Les drôles de solutions de Simon, de Geneviève Simard, tous les deux publiés chez Grund. C'est sur l'affirmation de soi, c'est
de
livre.
Oui, c'est ça, des enfants atypiques dans leur personnalité ou dans leur hobby. Donc, c'est une collection qui s'appelle Bizarre Moi.
Ouais.
Et puis ça, ce sont les 2 premiers tomes qui sont sortis. Le prochain s'en vient.
Ah oui, le prochain, c'est vous qui allez l'illustrer aussi?
Oui, oui.
Ah, c'est bien. Et puis, on va aussi nommer 12 câlins pour grandir, qui est sorti tout récemment. C'est janvier 2025. Ça, c'est un tout carton pour les tout petits sur la force des câlins. On aime beaucoup. Est-ce que c'est un défi, ces sujets plus sérieux, pour vous comme illustratrice?
Pas vraiment, je l'ai pas vu comme ça. J'ai pas vu ça comme quelque chose de lourd. En fait, ce que je trouvais intéressant dans le cadre de la collaboration pour les ballons d'eau avec Sarah de Bronze, ouais. Et pour la collection Bizarre Moi avec Geneviève Simard, c'est la première fois que j'illustre des enfants existants. Alors, pour le personnage principal des ballons d'eau, c'est la fille de Sarah,
oui.
Donc qui s'appelle Charlie, et qui partage sa vision de l'hypersensibilité émotionnelle. Mm-hmm. Et pour les drôles de choix d'Anna
et Simon.
Alors Simon, c'est pas à ma connaissance un enfant existant.
Mais Anna,
oui, c'est vraiment basé sur le personnage de la fille de l'autrice aussi.
Ouais.
Je trouvais ça intéressant en fait d'illustrer un personnage, une personne qui existe,
qui existe, évidemment.
Avec des tonnes de liberté, mais ouais. Pour ce qui est des émotions, de sujets peut-être plus sensibles, j'étais très à l'aise. J'aime beaucoup la variété, j'aime beaucoup exprimer tout un tas de choses, et c'est sûr que c'était un beau terrain de jeu là-dessus pour
ouais.
La variété. Ça reste très dynamique, ça reste
c'est très vivant,
c'est
ouais.
Ça, puis comme les émotions lourdes dans les ballons d'eau, comme les émotions explosives, je trouve que c'est intéressant aussi, ça permet d'avoir un rythme très différent dans le livre, puis qu'on soit hypersensible ou non.
Ça touche les gens quand même. Pourquoi vous pensez que... En fait, moi, j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous avez dit tout à l'heure.
Mm-hmm.
Vous faites de l'illustration éditoriale, de l'illustration pour publicité.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui définit, qu'est-ce qui distingue ces deux domaines pour les gens qui ne connaissent pas ça?
C'est vraiment des exercices très différents. L'illustration éditoriale, c'est accompagner un article avec une illustration qui va souvent être... C'est un exercice, c'est une gymnastique vraiment différente, plus conceptuelle, à savoir de montrer en une seule image plusieurs idées.
Ouais.
Donc je trouve ça très intéressant, puis j'aime la variété des projets. C'est sûr que là, c'est très très court, c'est une image pour
une campagne. Il faut aller vite tout de suite, il faut qu'on comprenne rapidement.
Oui, ouais. Oui, et puis sur la campagne publicitaire, ça va être plus au service d'une marque, ça peut occuper... C'est ça, c'est la variété aussi en temps de... En termes de durée, j'aime avoir des projets de livres qui vont m'accompagner sur plusieurs mois, comme un projet d'illustration éditoriale, c'est une image. Ouais. En publicité, ça peut être dans ma vie pour une semaine comme deux mois, mais c'est des exercices très très différents, puis des cibles différentes.
Ouais.
Je m'adresse pas nécessairement aux enfants dans ces cas-là, et puis c'est encore en lien avec finalement ma formation de designer graphique.
Ouais.
C'est encore tout autre chose que quand je fais des livres, c'est moi à 100%.
Ouais, c'est ça, c'est intéressant ça. Vraiment. En parlant technique, parce que c'est ce qui vous définit aussi, avec quels matériaux aimez-vous travailler pour illustrer?
Alors, je commence toujours mes esquisses. Au crayon de bois, papier, vraiment, ou c'est ça, tradi.
Ouais.
Et puis très très vite, j'affine sur Procreate,
ouais.
Sur mon iPad.
Ouais.
Je vais faire mes illustrations au propre sur l'iPad et généralement je finalise sur Photoshop. Ma petite tambouille, est-ce que ça, c'est ce qu'il y a de plus efficace? En tout cas, ça marche pour moi. Et quand je fais des livres, je fais aussi en parallèle une maquette sur InDesign. C'est... vraiment ma manière de procéder, ça me permet d'avoir comme une vision d'ensemble,
ouais.
Du livre à tout moment du projet.
C'est toujours utile.
Oui.
Oui, c'est toujours utile. Qu'est-ce qui mijote actuellement dans votre marmite de créatrice?
Eh bien, justement, maintenant que j'ai ouvert la porte à l'équipe
de Groud.
Alors, il y a plusieurs textes. Il y a des envies de tout carton, des envies de bande dessinée, il y a des envies d'albums, jeunesse. Et puis, c'est ça, là. C'est pas les idées qui manquent.
Il faut
c'est l'organisation.
Oui. L'organisation, le temps.
Prioriser un projet.
D'accord.
Il faut que je fasse un choix.
Élodie, c'est la tradition à Images et Mots à voix haute. On demande aux invités de nous proposer un ou plusieurs de nos coups de cœur littéraires jeunesse. On va commencer par une suggestion.
D'accord.
Puis on va voir le temps qui nous reste. Il nous reste 2 minutes.
D'accord.
Alors on a peut-être le temps. On vous écoute.
Ben, j'ai un peu triché. En fait, j'y vais avec aux éditions Varum. En fait, Aude Picot, qui est mon autrice favorite de bande dessinée, il y a 20 ans de ça, elle a sorti 2 petits volumes. C'est vraiment une mini BD, Moi, Je, qui parlait de sa vingtaine, très auto-centrée, et c'est très très, très drôle. Mais voilà que 20 ans plus tard, elle sort un troisième volume qui parle de la quarantaine et j'ai vraiment hâte. C'est sorti en France, ça devrait pas tarder là, il me semble que c'est ça sort au Québec en mars.
Okay.
Voilà, j'ai triché, je vous parle de quelque chose dont j'ai vraiment hâte en tant que fan. Est-ce que j'ai le temps pour...
Oui, bien
alors,
sûr.
Une recommandation qui s'appelle, c'est un album jeunesse qui s'appelle Libérez-nous, écrit, illustré par Patrick Georges aux éditions Pastel. Et c'est un livre dont j'adore le concept, en fait. Ça parle de la condition animale qui m'est chère. Et le principe est très simple, il n'y a pas de texte.
Ouais.
Sur chaque double page, on a, pardon, une situation où la page de droite, on va avoir... Oui,
ça va, on continue.
Oui. Sur la page de droite, on a une situation où l'animal est en captivité.
Ah,
sur
oui.
la page de gauche, on a une situation où l'animal reprend sa liberté. Et l'animal
et
est sur un calque.
C'est la fan, oh, c'est ça.
C'est ça, et je trouve ça fantastique de donner le pouvoir,
ouais.
en fait, à l'enfant, de libérer à chaque page un animal. Libre à chacun, après, de se poser des questions. Il n'y a pas d'histoire à proprement parler, mais
comme on veut.
C'est vraiment
c'est
intéressant,
génial.
Puis je trouve que ça doit être très, très, très enthousiasmant pour un enfant
ouais.
te dire hey, « c'est moi qui libère. »
J'ai du pouvoir.
Ouais.
C'est ça. Oh, merci à vous, Élodie Duhamel, pour cette rencontre. Merci pour vos illustrations pleines de couleurs vives, pour les personnages touchants que vous savez animer, pour les ambiances que vous créez, pour l'humour toujours, et pour la légèreté que vous offrez aux petits comme aux grands, au plaisir de vous lire
encore. Merci beaucoup.
Plaisir. D'autres idées de lecture et de sortie littéraire. Sur le site de l'émission, on vous met tous les liens vers les événements et les activités mentionnées. Dimanche prochain, le 9 mars, à Marie Raconte, je lis Le village dans la mer de Félix Girard, des éditions de Lysatis. Philibert en a assez. Son petit village construit sur une île au milieu de l'océan n'est plus le paradis rêvé, la mer monte toujours plus haut chaque année et l'intensité des pluies printanières oblige les villageois à se réfugier sur le toit de leurs habitations. Pour protéger sa maison, l'aigle de ses grands-parents, Philibert demande de l'aide au géant qui vit dans l'île voisine. Une magnifique histoire sur l'importance des liens que nous développons avec une touche écologique qui évoque les changements climatiques. On en écoute un extrait. Philibert prit son courage et ses rames à deux mains et se rendit à la grotte du géant, située sur une sinistre île voisine où personne ne s'aventurait jamais. C'était un endroit effrayant et le géant était un être grincheux et renfrogné qui n'avait qu'une seule obsession, posséder le plus d'objets possible. Une série de félicitations maintenant. D'abord à Geneviève Després, l'illustration tirée du livre 24 décembre, publié chez Deux. Premier texte pour Arthur Drouin, qui collabore ici avec sa mère, illustratrice, a remporté le certificat Merit Award à la compétition internationale E-Jungle dans la catégorie Livre. Ensuite à Manon Gauthier, son album Nous tous est l'un des 10 albums jeunesse en français sélectionnés pour le Club de lecture des TD 2025. À Roxane Turcotte, qui a reçu le 29 janvier dernier une grande distinction remise au nom de Madame Manon Janotte par Madame Muriel Laberge, rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, une médaille de la lieutenante-gouverneure du Québec en reconnaissance de son implication à donner le goût de lire aux jeunes. On connaît les finalistes jeunesse du Prix des libraires, mais au moment où on enregistre cette émission, la cérémonie de remise des prix Volet Jeunesse 2025, elle a lieu le 24 février, donc après notre enregistrement. Alors, je vous laisse sur notre site le lien utile pour connaître les lauréats. Félicitations à chacun, ainsi qu'à tous les finalistes dans les 8 catégories. Bande dessinée 0-5 ans, 6-11 ans, 12-17 ans, Québec et hors Québec.
Samedi 8 mars, de 10h30 à 11h30, c'est l'heure du conte bimensuel pour les 3-7 ans à la librairie Le Port de Tête, au 222 rue Mont-Royal. Également, le samedi 8 mars, de 11h à 17h, se tiendra également le Salon du livre des Laurentides au Centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville, au 120 boulevard du Séminaire, à Sainte-Thérèse. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Parmi les diverses activités qui se dérouleront durant la semaine de relâche, dans la plupart des bibliothèques municipales, en voici deux particulièrement intéressantes. Du 3 au 7 mars, à la bibliothèque Mordecai-Richler, au 5434 Avenue du Parc à Montréal, il y a le club de lecture de la relâche pour les 7 ans et plus, et c'est gratuit, l'entrée est libre. Pour information, le numéro de téléphone et le lien sont sur notre site. Jusqu'au 9 mars, sur le parvis de la Grande Bibliothèque, dans le cadre de l'exposition Luminos, sont présentés les fabuloscopes. Voici ce qu'on en dit, de véritables machines d'animation qui redonnent vie à des légendes atikamekw. En tournant un grand volant, vous pourrez transformer un récit composé d'images fixes en une boucle animée, grâce à la persistance rétinienne qui permet à vos yeux et à votre cerveau de superposer une image vue sur de nouvelles images. Vous verrez alors les mythes atikamekw prendre vie devant vous. Pour les infos, le lien est sur notre site. En terminant, soulignons quelques sorties de livres récentes ou à venir. Chez les 400 coups, Arthur le robot aspirateur de Marie-Catherine Lapointe et Aurélie Grand à paraître le 4 mars. Quand Philippe aperçoit le super boom Max 500 dans la vitrine du quincaillier, c'est le coup de foudre. Il est convaincu que sa famille et lui ont absolument besoin de ce fameux robot aspirateur intelligent. Mais bon, faut voir comment ça se passe pour la suite. Et chez Métamorphes de Rachel Greener et Claire Owen, traduit par Sophie Deshaies, « Sais-tu d'où viennent les bébés? » Un livre inclusif qui explique comment débute chaque famille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie tous les invités et les collaborateurs, Geneviève Chauvette, ses élèves Jaël Saint-Jean, Mariam Sécri, Lynn Gélab de l'école Wilfrid Bastien et Jacques Goldstein pour la surprise, Mathilde Routy pour sa chronique, Aude Rohrbach pour la tribune littéraire, l'autrice et illustratrice Élodie Duhamel, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie, au montage et à la mise en onde, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes et on se retrouve dans deux semaines.